La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui va nous permettre tout à l'heure de rejoindre Lomé ou Togo, puisque nous allons parler avec la directrice déléguée de l'Institut français qui va nous donner un aperçu de ce que propose cet institut dans les mois à venir, donc à Lomé. Et auparavant, nous ne serons plus au Togo, mais nous serons en compagnie d'un auteur d'origine togolaise. Je pourrais dire d'ailleurs d'un auteur togolais, c'est Sami Tchak, qui tout récemment a fait paraître aux éditions Jean-Claude Lattès un livre d'une sagesse et d'une certaine solennité qui m'ont impressionné et qui s'intitule « Ainsi parlait mon père ». Ainsi parlait mon père, voilà le titre de l'ouvrage que vous avez fait paraître donc récemment, Sami Tchak. Je parlais de solennité parce que forcément, le titre est un petit peu solennel. En plus, bien sûr, de l'écho qu'il y a à oui. Nietzsche et à Ainsi parlait Zarathoustra, on voit que c'est la parole de quelqu'un qui transmet quelque chose. Il y a un poids dans ce titre. Vous l'avez décidé tout de suite ?
Oui, ça m'est venu aussi à cause des échos qu'il y a entre la parole de mon père et toutes les pensées qui m'habitent à partir de mes lectures. Ce titre m'est venu comme un clin d'œil et comme une nécessité. Voilà, ainsi parlait mon père. Ça fixe d'emblée le sens du livre, une sorte d'hommage à quelqu'un qui n'est plus là.
Marche et écoute. Écoute et retiens. Retiens et n'oublie pas. Mais la parole entendue, tu la reconstruis, tu la captes en miettes et tu la reconstitues. Donc la parole entendue que tu rapportes est en partie ta parole, car c'est toi qui l'as reconstituée. Si elle est mal restituée, tu en deviens un traître. Si son écho agit en profondeur en nous, c'est que tu as su en être un humble serviteur. Alors mon fils, qu'as-tu entendu ? Alors, je vous pose cette question, Sami Tchak, puisque vous la posez dans votre livre, et qu'avec ce tout petit verset, cette petite strophe, et on reviendra tout à l'heure sur le style de votre livre, vous donnez un genre de vademécum de votre livre.
Oui, ce que j'ai entendu, chacun de nous est un peu comme un filtre. Tous les échos du monde, qu'on soit dans sa chambre ou qu'on voyage, nous parviennent d'une manière ou d'une autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel de tous ces échos-là? À nous de les filtrer. Et qu'est-ce qui nous sert de filtre? Peut-être ce que nous portons en nous comme fond humain universel. À partir de là, nous savons, d'une certaine manière, disons élaguer, laisser peut-être s'en aller le superflu et retenir de chaque parole, de chaque mot que nous avons entendu, de chaque événement dont nous avons eu les échos, ce qui peut appartenir, comme je l'ai dit dans le livre, à la fois à hier, à aujourd'hui, et aspire à être de demain, l'universel.
Alors, Sami Tchak, vous êtes un romancier africain, et l'une des choses que j'ai très souvent appréciées dans tous les livres de vous que j'ai lus, c'est qu'il ne se passait pas en Afrique. Justement, vous êtes un romancier africain qui s'est peut-être un peu affranchi d'une origine africaine, puisque vous vous autorisez, comme n'importe quel autre romancier peut le faire, à situer votre intrigue au Mali, ou bien en Colombie, ou bien en France, place des Fêtes, dans le 20e arrondissement, ou ailleurs. Vous ne vous sentez pas obligé de parler d'Afrique. Et dans ce livre, qui n'est pas un roman, qui est donc un livre de souvenirs et un souvenir de paroles qui ont été prononcées pour vous, par votre père, eh bien là, bien sûr, on revient à l'Afrique. Alors, est-ce que c'est une façon de vous resituer, de vous réassurer par rapport à vos origines ? Parce que c'est un peu en rupture avec tous les livres de vous que j'ai lus jusque-là.
Oui. Disons qu'il y a un défi, la parole de mon père qui a comme berceau un petit village et surtout une petite forge, essayer de la confronter aux paroles qui me sont venues d'un peu partout et voir quel écho elles ont avec celles de mon père, voir quel écho celles de mon père ont avec elles. Donc, dans ce travail-là, il y a une confrontation presque posthume entre mon père et des voix aussi, elles posthumes, c'est des philosophes, des prophètes et tout. Ce que j'ai tenté vraiment de faire en réaffirmant mes origines, parce que mes origines par rapport à tout ce qu'on connaît de moi, l'écrivain qui situe ses livres en Amérique latine, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'où que vienne la parole, si elle a vraiment du sens, elle est en même temps de son lieu, mais aussi de partout. La parole de mon père est vraiment du lieu d'où je viens, mais elle est de partout aussi.
Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour écrire ce livre? On le disait tout à l'heure, il y a une suite de petites strophes versets. Et en tout cas, dans toute la première partie du livre, puisque dans la deuxième, vous reprenez la parole à votre compte, c'est vous, Sami Tchak, qui parlez. Mais dans toute la première partie du livre, vous vous ressouvenez d'un certain nombre de choses que vous avez entendues de votre père. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont réinterprétées, plus ou moins imaginées. Quel a été le travail de la mémoire pour écrire ce livre?
Il y a d'abord au niveau de la langue, un travail de d'interprétation et de traduction à plusieurs niveaux, parce que certaines paroles de mon père sont suscitées par les miennes lorsque je lui traduis dans notre langue des pensées venant par exemple de d'écrivains ou philosophes allemands ou anglais qui eux ont écrit dans une langue qui n'est pas la mienne. Et moi, je les ai lus en français. C'est déjà une traduction. Je traduis à mon père, dans notre langue, des paroles qui sont traduites d'une autre langue en français.
Et alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a tout un travail de traduction en amont et en aval. Au départ, vous vous rappelez des discussions avec votre père qui n'ont pas eu lieu en français.
Qui n'ont pas eu lieu en français.
Vous dites que votre père ne lisait pas le français. Est-ce qu'il le parlait?
Il ne le parlait pas, aucun mot de français, il ne le parlait pas. Du coup, lui faire parvenir dans ma langue maternelle, qui est le thème des paroles, que moi j'ai lu en français, qui ne sont pas nécessairement écrites en français, cela constituait un premier travail de traduction. Avec le temps qui s'est écoulé, me souvenir de ce qu'il a dit, le reconstituer, c'est un autre travail de réinterprétation, d'interprétation, de traduction et de création. Il y a une part de création.
Thank you.
Nasiko Bella Bello, qu'on entend ici, une chanteuse qui représente la culture togolaise, même si la voix, même si la langue dans laquelle on l'entend n'est pas celle de votre père, Sami Tchak, puisqu'elle chante en évé. C'est vous qui venez de me le dire, je n'aurais pas pu déterminer en quelle langue elle chantait. Mais ça, c'est pas du thème qui est la langue de votre père.
Ce n'est pas du thème, elle a une chanson, un thème qui est Zélié, dont je parle dans le livre. J'ai repris sa chanson qui est dans ma langue, qui est une chanson qu'on entend lors des mariage.
Oui. Alors, on parlait il y a un instant du fait que vous avez reconstitué un certain nombre de dialogues, de discussions avec votre père. Est-ce que de les écrire, ça a mis à distance une certaine émotion ? Affectivement, est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a emmené loin, qui vous a bouleversé ? Est-ce que le fait de travailler là-dessus réussissait justement à maintenir le niveau d'émotion à un niveau maîtrisable, disons.
Oui, disons, comme je parle de mon père, de sa parole, alors qu'il est déjà mort, j'ai plutôt pris mes précautions pour que l'émotion ne m'empêche pas la lucidité.
Oui, il faut pas être submergé.
Voilà, il y a quand même une certaine lucidité. L'émotion, elle est nécessaire, mais quand elle nous submerge, peut-être que elle brouille un peu notre ambition, celle de donner une parole universelle. Donc, j'ai écrit toutes ces réflexions-là sur plusieurs années. Je dirais en marge de mes autres livres, je les écrivais. Ça m'a quand même protégé contre ce que j'aurais pu appeler un excès de pathos. Donc j'ai su quand même mettre l'émotion à distance pour être vraiment dans la substance de la parole.
Oui. Alors cette parole, très souvent, elle a eu une certaine solennité, ce à quoi on s'attend justement pour une parole dont vous voulez qu'elle soit universelle. En même temps, il faut pas se laisser aspirer par une parole qui se gonfle d'elle-même. C'est ce que vous dites. C'est ce que dit votre père. Il dit justement, il faut traduire parce que sinon ça vaut rien.
Oui.
Tu es en train de me dire que ce que tu écris ne peut avoir un sens pour moi. Non, 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 ne renonce pas. Ce qui est sorti de ton ventre dans cette langue, le français, tu dois pouvoir me le traduire en notre langue, le thème. Si tes mots ont réellement un sens, tu devras pouvoir me les traduire, à moins qu'il ne s'agisse de bruit, non de parole. Sinon, toute parole essentielle a son équivalent dans toutes les langues humaines.
Oui, c'est quand même une chose à laquelle, moi aussi, j'ai plutôt donné foi très tôt, que en lisant des livres ou en surtout des contes, des dictons, tout ce qui relève de la sagesse, j'ai compris quand même que les langues ne pouvaient être une barrière au fond, à ce qui constitue le fond d'une parole essentielle. Et ça, mon père avait, lui, cette conscience-là. Il me l'a transmise. Je l'ai découvert aussi, moi, en lisant beaucoup de livres qui relèvent de la sagesse de beaucoup de civilisations. Toutes les paroles essentielles sont traduisibles dans toutes les langues possibles de l'humain.
En même temps que la forme de votre livre évoque bien sûr à la fois cette sagesse et un certain lyrisme. Je parlais de versets tout à l'heure. Ce sont des petites strophes, des petits paragraphes qui sont numérotés, qui évoquent bien sûr tout le contraire d'un récit qui se poursuit et beaucoup plus une sorte de parole révélée par fragments.
Oui, il y a une part de révélation, surtout dans la première partie où c'est mon père que je fais parler. Il y a une sorte de révélation, même en reconstituant, je le dis dans l'oralité, que mon père n'ayant jamais écrit une seule ligne, j'avais l'impression à un moment que j'étais le porte-parole de quelqu'un que j'élève au rang d'un prophète. Parce qu'il se fait que tous les prophètes ont en commun, du moins ceux qui sont les plus importants ou les plus connus, ils ont en commun de n'avoir pas écrit. Leurs disciples ont écrit. C'est comme si j'étais devenu le disciple de mon père pour faire ce travail-là, dans la mesure où ce qu'on dit, que les prophètes ont dit, on l'a écrit quand il n'était plus là, pour le contester. Moi, je reconstitue la parole de mon père au moment où il n'est plus là pour reconnaître ou contester ce que je lui prête comme parole. Donc, je fais cet aspect solennel vient de là aussi.
En même temps, Sami Tchak, que vous vous mettez vous-même dans une position très particulière, parce que à partir de tous ces souvenirs que vous reconstituez, on vous voit très souvent disant quelque chose à votre père, lui traduisant soit des extraits de votre livre, Place des Fêtes, soit lui traduisant ou bien lui transmettant des paroles de Socrate, de Marc Aurèle, de Sade, de Confucius. Donc très souvent, vous arrivez avec la connaissance qui est la vôtre, puisque vous êtes universitaire, vous avez fait vos études à la Sorbonne, vous avez fait une thèse en philosophie, et vous allez lui dire, mais qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, parce que il est arrivé un moment où, après avoir entendu de lui, écouté ce qu'il disait, je m'étais permis moi aussi de devenir comme un enseignant, peut-être pas son maître, mais comme un enseignant, dans la mesure où le chemin que moi j'ai emprunté m'a permis de découvrir peut-être des territoires qu'il n'aurait pas découvert lui directement. Je lui apportais ce qu'il n'aurait peut-être pas pu aller chercher lui-même directement.
On arrive à l'extrême fin de votre livre « Ainsi parlait mon père », on s'aperçoit, et pour moi ça a été une surprise, que vous l'avez écrit en marge d'une autre écriture, puisque vous parlez d'un roman autobiographique qui est encore à paraître. Est-ce que vous avez écrit ce texte un peu dans les coulisses d'un autre ?
Oui, il y a surtout le roman autobiographique dont je parle, déjà alors qu'il n'est pas encore disponible, qu'il n'est pas encore...
Mais il est terminé ?
Oui, il est terminé. Dans ma tête, il est terminé. Sur le support, il est terminé. Mais quand je dis terminé, ça veut dire le vrai travail commence, parce que il est terminé sous sa forme première, mais il me faudra peut-être quelques temps, peut-être un an, deux ou trois même, pour être satisfait moi-même à partir de ce que je voudrais lui donner comme forme. Celui-ci constitue quand même déjà une autobiographie, dans la mesure où peut-être que ce qui nous constitue quand même le plus universellement possible, ce n'est peut-être pas l'élément matériel de notre vie, mais ce que nous pensons, notre vision du monde. Par ce livre, j'ai donné un peu plus, de façon directe, ma vision du monde, ma vision de l'humain, ma vision de l'humanité, ma vision de l'universalité. L'autobiographie sera peut-être un habillage de ce que j'ai déjà donné à lire dans ce livre.
Et l'un, l'écriture de l'un vous a aidé pour l'écriture de l'autre ?
Oui.
Il y avait un système de contrepoids ?
Il y a un système, disons, de complémentarité entre le récit, la description et, disons, la forme très brève qui exige d'élaguer, de laisser de côté beaucoup de choses. Alors que, le roman autobiographique comporterait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments peut-être qui n'auraient pas pu trouver leur place ici ou qu'une forme comme celle-ci n'aurait pas supporté. Donc l'autobiographie sera, disons, un voyage un peu plus ample auquel je donnerais un peu plus de chair. Je dirais peut-être que j'ai extrait de ce qui constitue la chair de mon autobiographie quelques pensées, et maintenant, à ces pensées-là, je donnerais de la chair avec l'autobiographie. Oui.
En même temps que ce livre, on a l'impression qu'il se situe au milieu d'une chaîne, celle qui vous lie à votre père, d'un côté, et de l'autre, celle qui vous lie à d'autres gens, notamment vos enfants. Vous parlez de votre fils Malik, qui, de temps en temps, vous dites ça maintenant. Donc, vous prenez la place de votre père. Il y a un passage de témoin qui a pu se faire à la faveur d'une écriture comme celle-ci.
Oui, j'ai parlé de Malik, qui aussi devient une sorte d'héritier de ma parole. Et il y a aussi mes filles, Jade et Sarah, à qui je tenterai de transmettre de la même manière que mon père l'a fait, ce que moi je pense être essentiel, même si mes enfants, eux, contrairement à mon père qui ne lisait pas, n'ont peut-être pas besoin de moi pour aller chercher dans les livres ce qu'ils pense être essentiel.
Le besoin n'est sûrement pas le même. Mais il y a beaucoup de choses, oui, qui sont touchantes parce que justement, on voit bien que votre père vous a parlé pour vous mettre en garde contre un certain nombre de choses, de sentiments qui lui importaient. La jalousie, par exemple, jalousie. Ça revient à plusieurs moments. Méfie-toi de la jalousie. Oui. La jalousie, c'est de la perte de temps. La jalousie, c'est du rien, etc. Et à l'extrême fin du livre, vous dites que votre père a été humilié par sa deuxième femme qui disait « Mes enfants ne sont pas de toi », etc. Et qu'il a dû lutter contre quelque chose de très difficile, certainement.
C'est même, à un moment, l'intérêt du livre. Quelqu'un qui affronte ce qu'on peut appeler l'humiliation ou la honte dans une société d'interconnaissance communautaire, puisqu'un village, tout le monde connaît tout le monde sait ce que tout le monde a subi, parvenir peut-être à conserver une certaine dignité, malgré ça, ça a été un des intérêts de ce travail que j'ai entrepris, donner quand même à voir comment, même dans une société où l'humiliation a un poids important, un homme conserve sa dignité.
Eh bien, merci beaucoup, Sami Tchak. Je vais lire une dernière phrase. Je ne t'en veux pas de rêver dans la langue des autres. Je te maudirais plutôt si tu te prenais pour les autres. Ainsi parla mon père. Donc, je vous conseille fortement de lire Ainsi parlait mon père, publié par Sami Tchak aux éditions Jean-Claude Lattès. Il est temps de retrouver maintenant Ma parole.
Ma parole, ça t'apprendra.
Bonjour Edwige Sozomboui, bonjour le Togo et bonjour Lomé, puisque vous êtes directrice déléguée de cet institut français togolais. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez en tête pour les semaines et les mois qui viennent, quelle est l'offre, et en particulier l'offre culturelle de cet institut.
D'abord, bonjour à tous. Lomé est très content de vous retrouver sur les ondes de RFI.
C'est tout à fait réciproque.
Voilà, donc l'Institut français du Togo, c'est quand même plus de 300 événements tout au long de l'année. Et donc pour les prochaines semaines, et notamment pour le week-end prochain, l'Institut va proposer au public togolais un grand spectacle d'improvisation. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce que sont les spectacles d'improvisation. En fait, c'est un genre théâtral qui est un genre théâtral contemporain. On peut résumer un petit peu ainsi. En fait, c'est une forme de théâtre où le comédien joue devant un public, jusqu'à là tout est normal, mais sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable. Donc le comédien ne sait pas ce qu'il va jouer et le public ne sait pas ce qu'il va voir. C'est toute la caractéristique de ce genre théâtral. La seule chose que le comédien va pouvoir obtenir au tout début du spectacle, c'est un temps donné, une durée pour ce spectacle et un thème que va lui donner l'arbitre.
Donc il y a un genre de cadre, il connaît l'histoire, il doit dire quelque chose mais il ne sait pas exactement avec quel mot et puis il doit aussi répondre à ce que lui répondront ceux qui sont et celles qui sont en face de lui.
Exactement. En fait, donc l'arbitre donne vraiment ce cadre-là qui peut être... alors il peut y avoir plusieurs types de cadres, plusieurs types de jeux qui vont lui être proposés. Alors le plus simple, on a parfois l'habitude de voir, c'est le public va proposer par exemple 10 mots et le comédien va devoir improviser, créer une scène, une histoire avec ces 10 mots. Ça, j'allais dire, c'est la forme la plus simple. Mais ensuite, les choses peuvent se complexifier.
Voilà. Alors, pourquoi parlez-vous d'arbitre, justement? Est-ce que ça a un côté jeu et un côté joute en même temps?
Alors, il peut y avoir plusieurs formes. Mais effectivement, il y a d'une certaine manière un côté match. Et c'est ce qu'on a eu l'habitude de proposer jusqu'à présent aux spectateurs togolais, puisqu'on nous en sommes à la troisième année où l'on propose ce type de spectacle. Et donc, nous, on propose des matchs France-Togo. Donc on a des équipes de comédiens, souvent trois comédiens français, trois comédiens togolais, et l'arbitre va leur donner ces thèmes, ce jeu, et à eux de créer, et ensuite le public vote pour l'équipe de comédiens qui aura fait la meilleure prestation. Donc il y a cette forme de joute, de match, mais pas uniquement, puisque cette année, pour la première fois, on va proposer une autre forme de spectacle d'improvisation, on va proposer une forme longue où tous les comédiens se retrouveront pour proposer pendant 45 minutes une pièce de théâtre, mais qu'ils auront inventée de toute pièce, avec quelques mots et quelques personnages donnés par le public. Donc on peut avoir des formes longues et des formes de match également.
Alors, vous parlez, Edwige, de comédien. Est-ce que c'est une forme qui parfois s'adresse à des amateurs, puisque vous parliez d'un stage? Est-ce que ce stage, il s'adresse également à des gens de Lomé qui ne sont pas comédiens, mais qui s'intéressent au théâtre et qui pourraient tremper dans cette activité?
Oui, alors effectivement, ici on fera jouer des comédiens professionnels, mais on organise également des masterclass, et depuis 2 ans, il y avait également des cours de théâtre d'improvisation qui étaient destinés aux amateurs. Alors, cette forme de théâtre, elle peut paraître très simple quand on voit les comédiens jouer sur scène, parce qu'effectivement, il n'y a pas de répétition préalable. Néanmoins, il faut énormément d'entraînement, de vivacité d'esprit pour créer ces spectacles-là. Donc il faut s'entraîner, mais il y a également des cours pour les amateurs. Alors en France, il y a 2 salles de spectacle où on peut se former, qui sont des salles de spectacle qui s'appellent l'Improvidence. Il y en a une à Lyon et une à Bordeaux, qui proposent des cours, des formations pour des amateurs et également des comédiens professionnels. Et puis au Togo, on a dispensé pendant 2 ans, également avec la troupe du théâtre Niagmé, des cours de théâtre d'improvisation. Donc il y aura également des masterclass.
Donc il y a des gens qui commencent à être un petit peu rompus à l'exercice. Il y a des gens qui ont fait ces masterclass les années dernières, qui reviendront cette année?
Exactement. Donc on a plusieurs comédiens togolais. Je pense à Blaise Folly, à Stan, qui aujourd'hui ont commencé en tant qu'amateurs, puis comédiens professionnels, et aujourd'hui qui joueront sur scène et qui font partie des meilleurs comédiens togolais en la matière.
Et le public, lui aussi, il commence à être habitué à tout ça. Ce sont les mêmes gens qui reviennent, qui affinent un petit peu les questions, les situations qu'ils vont proposer à ces comédiens amateurs ou professionnels?
Chaque année, en fait, on a de plus en plus de public. C'est vraiment une forme de théâtre très participative, donc qui plaît beaucoup au public. Et donc chaque année, en fait, on a de plus en plus de monde, mais régulièrement, il y a des personnes qui sont vraiment fans de ce type de théâtre et qui reviennent d'année en année.
Bah écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Un mot peut-être avant qu'on se sépare sur le festival de jazz que l'Institut de Lomé accueille aussi dans quelques semaines.
Oui, parce que le 30 avril prochain, tout le monde le sait, sera la journée internationale du jazz. Et donc nous participerons à l'édition 2018 du Togoville Jazz Festival, qui est un festival consacré au jazz et aux musiques du monde, ici au Togo. Ça se déroulera à Lomé, à Gbografo et Togoville. Et cette année, l'Institut français du Togo accueillera en concert live Mbouye Koité, qui est l'artiste malien élu prix découverte RFI 2017, qui est actuellement en tournée africaine dans tous les instituts français. Donc il sera le vendredi 4 mai à 20h sur la grande scène de l'Institut pour une musique mandingue, tradie moderne, et puis également avec la présence en première partie de la magnifique voix togolaise de Naïda Sambo.
Eh bien, merci beaucoup Edwige Sansonboui de nous avoir renseigné sur tous ces événements qui vont se produire à l'Institut français du Togo. On se quitte bien sûr en écoutant cette musique du prix RFI dans la danse des mots, en remerciant l'Institut français de Lomé et sa directrice déléguée Edwige Sansonboui, en remerciant également Samy Tchak qui était là dans la première partie de cette danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamar.
Menterife, Sanuniwari, Nebenterife. Numa fonyena, duma fongo, tere lukote. Dolo migalonda teri lune tauma. Sueli galonda teri lune na lukote. Bingali galonda teri lune tauma. Papa Nyangfo Baby Fo Sempara Umarufo Baby Fo Nebe Gansu Geifo.